On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Des nouvelles de Gaza. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 23 février 2026 dans les As de l'info. 4 mois se sont écoulés depuis le début du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Sur le terrain, le peuple palestinien tente de se relever après 2 ans de guerre. Mais on en entend peu parler dans les médias. Est-ce que la situation s'améliore pour la population depuis l'arrêt des combats? Médecins sans frontières, MSF, une organisation qui aide des gens sur place, a répondu à nos questions. La guerre à Gaza, en bref. Le 7 octobre 2023, le Hamas, un groupe terroriste palestinien, a attaqué Israël par surprise. Environ 1 200 personnes sont mortes dans ce terrible attentat qui a traumatisé le pays. Le Hamas a aussi pris en otage 251 Israéliens. Conséquence, Israël a promis de détruire le Hamas et a lancé une guerre contre Gaza, le territoire où il se cache. Cette riposte a causé la mort de plus de 70 000 Palestiniens de Gaza, en majorité des femmes et des enfants. L'armée israélienne a aussi empêché la nourriture d'entrer à Gaza, ce qui a provoqué une famine. De nombreuses voix et organisations ont qualifié la situation de génocide. Finalement, le 10 octobre 2025, les Israéliens et les Palestiniens ont accepté un plan de paix proposé par Donald Trump pour faire cesser les combats. Des otages israéliens et des prisonniers palestiniens sont libérés dans les semaines qui suivent. La paix demeure quand même très fragile sur le territoire. Qu'est-ce qui a changé depuis le cessez-le-feu d'octobre? Médecins sans frontières. La violence a diminué, mais n'a pas cessé. Israël continue de lancer des attaques et de bloquer l'aide humanitaire à Gaza. Depuis octobre 2025, plus de 500 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Les besoins sont immenses et continuent d'augmenter. Est-ce qu'il y a plus d'eau et de nourriture? Est-ce que l'aide humanitaire entre enfin? Médecins sans frontières. Il manque de tout. Eau, nourriture, médicaments, carburant. Des camions entrent dans la bande de Gaza, mais la quantité de marchandises autorisées par les autorités israéliennes n'est pas suffisante. L'assistance est bloquée volontairement. Les gens ont donc du mal à se procurer de la nourriture et des biens essentiels comme des couvertures. En 11 mois, MSF a distribué plus de 719 millions de litres d'eau. Notre usine, qui nous permet de dessaler l'eau de la mer pour en faire de l'eau potable, a produit 99 millions de litres d'eau. C'est l'hiver présentement. Est-ce qu'il fait froid à Gaza? Les gens habitent où? Médecins sans frontières. La plupart des gens habitent dans des tentes, des abris de fortune ou sur les ruines de leurs maisons. Les hivers dans la bande de Gaza sont très difficiles. Il vente et il pleut beaucoup. Les abris sont donc souvent inondés. Il fait aussi très froid, jusqu'à 8 ou 11 degrés Celsius, et il est difficile de se procurer des couvertures et des vêtements chauds. Est-ce que les gens peuvent se faire soigner? Médecins sans frontières. Aujourd'hui, seuls 18 des 36 hôpitaux fonctionnent, et en partie seulement. Il n'y a plus de soins spécialisés à Gaza. Les gens doivent être évacués pour se faire soigner dans les pays voisins. Mais Israël limite les autorisations de sortie et ne garantit pas que les gens puissent revenir par la suite. Comme tu peux le voir, même si on parle beaucoup moins de Gaza dans les nouvelles, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée. C'est pourquoi il est important de continuer de s'informer sur ce qui se passe là-bas et de ne pas oublier ces personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. Et toi, est-ce que tu trouves qu'il y a d'autres sujets dont on ne parle pas assez?
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my
Pour ou contre la semaine de relâche? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 23 février 2026 dans les As de l'Info. Tic-tac, tic-tac. Entends-tu? C'est le décompte des minutes avant la relâche. Une semaine complète de congé. Mais est-ce que c'est une si bonne idée, cette semaine de vacances à la fin de l'hiver? Pourquoi manquer l'école 5 jours? La pause des fêtes n'est quand même pas si loin. Tu nous connais. Aux As, on aime les débats. Alors, regardons ensemble les pour et les contre de la semaine de relâche. Les pour. Un congé au bon moment. On vient de traverser les mois froids de janvier et février. La fatigue accumulée commence à se faire sentir. Cette semaine de repos arrive juste au bon moment. C'est aussi un congé pour les profs qui leur permet de faire une pause avant le marathon de fin d'année. C'est bénéfique pour tout le monde. Une foule d'activités offertes. Il y a de plus en plus d'activités divertissantes qui sont proposées pendant la semaine de relâche. Festivals, camps de jour spécialisés, événements gratuits. Au cinéma, ça coïncide aussi avec la sortie de films pour toute la famille. On a l'embarras du choix. C'est bien plus simple. Pendant la relâche, tous les enfants ont congé en même temps. Il y a aussi des parents qui décident de prendre des vacances à la relâche. C'est donc plus facile de planifier des activités et des sorties avec les amis. C'est aussi la semaine idéale pour partir en voyage pendant l'année scolaire sans manquer l'école. Les contres. Ça brise le rythme. Les profs le voient. Au retour des longs week-ends, les élèves ont un peu de mal à reprendre le rythme. Après une semaine complète, c'est vraiment difficile de s'y remettre. Ce n'est pas le temps d'être au ralenti alors que l'étape la plus importante de l'année commence. Ça coûte cher. Une semaine de sortie ou de camp de jour, ça représente beaucoup d'argent. Ce n'est pas toutes les familles qui peuvent se permettre d'avoir une relâche remplie d'activités. En plus, les prix grimpent pendant cette semaine. Les voyages et les chalets sont super chers. Ça retarde le congé d'été. Si on éliminait cette semaine de congé, on pourrait tomber en vacances d'été une semaine plus tôt. Sinon, on pourrait distribuer ces 5 jours pendant l'année pour avoir plus souvent des semaines courtes et être moins fatigué. En bref, pour un congé au bon moment, une foule d'activités offertes, toutes les précautions sont prises. Contre, ça brise le rythme, ça coûte cher, ça retarde le congé d'été. Et toi, es-tu pour ou contre la semaine de relâche? Voici le nouveau chef du Parti libéral du Québec, un texte de Caroline Bouffard, paru le 16 février 2026 dans les As de l'Info. Depuis vendredi, le Parti libéral du Québec, PLQ, a un nouveau chef, Charles Milliard. Il remplace Pablo Rodriguez, qui a démissionné en décembre après une série de scandales. Je te présente celui qui souhaite être élu premier ministre du Québec aux prochaines élections. Le nouveau chef a 46 ans. Il est pharmacien et habite en Estrie. Il n'est pas député. C'était la deuxième fois qu'il tentait d'être élu chef du PLQ. La première fois, au printemps 2025, il était arrivé deuxième derrière Pablo Rodriguez. Après la démission de M. Rodriguez, une nouvelle course a été organisée. Et cette fois, Charles Milliard était le seul candidat à se présenter pour le poste. Les membres du parti n'ont pas eu besoin de voter et il a gagné automatiquement. On dit donc qu'il est devenu chef du PLQ par acclamation. De gros défis attendent Charles Milliard. Le PLQ a été secoué par des scandales l'automne dernier. Charles Milliard doit regagner la confiance des électeurs rapidement. Les prochaines élections provinciales auront lieu le 5 octobre 2026 et le PLQ est deuxième dans les sondages. En plus, comme il n'est pas député, il ne pourra pas débattre avec les autres partis à l'Assemblée nationale. Il devra donc travailler fort pour se faire connaître. Dimanche, devant 600 militants du PLQ, il a dit qu'il était prêt à affronter ses adversaires politiques et à gagner l'élection de 2026. Alors, Charles Milliard est un pharmacien qui espère devenir premier ministre. Selon toi, quel métier prépare le mieux à faire de la politique? 1 bâton autochtone sacré refusé à l'Assemblée nationale. Un texte de Camille Lopez, paru le 17 février dans les As de l'Info. Au début du mois de février, le chef autochtone, Sipi Flamand, s'est rendu à l'Assemblée nationale pour dénoncer un projet de loi. Mais des agents de sécurité ont refusé de laisser entrer avec un bâton sacré, un symbole important pour sa communauté, les Atikameks de Manawan. Ça a causé beaucoup d'indignation chez les Autochtones. Mais qu'est-ce qu'un bâton sacré? Et qu'est-ce qui va se passer? Sipi Flamand m'a tout expliqué. Un projet dénoncé. Le 5 février, Sipi Flamand accompagne d'autres chefs autochtones à l'Assemblée nationale à Québec pour dénoncer le projet de constitution. C'est un projet de loi qui aurait la priorité sur toutes les autres, une sorte de loi suprême. Mais selon les Autochtones, ce projet a un gros défaut. Les Autochtones n'ont pas été consultés et le document ne les mentionne presque pas. Chef Flamand, pourquoi êtes-vous allé à l'Assemblée nationale le 5 février? Parce que le gouvernement aurait dû impliquer les autorités autochtones dans le projet de constitution. Pour qu'on puisse faire des recommandations et voir comment on peut travailler ensemble. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, les Autochtones siègent au gouvernement. Je serais allé défendre l'importance de cette discussion. Mais, lorsque je suis arrivé, les agents de sécurité m'ont dit que je ne pouvais pas emmener le bâton sacré dans la salle où se déroulent les discussions à cause de leur règlement de sécurité. Comment vous êtes-vous senti? Je me suis senti humilié. Ça montre l'ignorance de nos traditions alors que j'allais défendre nos droits, nos opinions. Quelle est la signification du bâton sacré? C'est un symbole culturel, spirituel et diplomatique. Il permet de faire entendre la voix de mes concitoyens, mais aussi celle de nos ancêtres et des prochaines générations. C'est comme si je les emmenais avec moi. De quoi est-il fait? Il est fait d'un bois sacré et de fourrure de castor, qui est un animal très important pour les Atikamekw. Au bout, il y a un panache de chevreuil. Sur le bâton, on compte 13 plumes d'aigle qui représentent les 13 lunes dans l'année. Et puis sur le panache, il y en a 3 autres qui représentent les aînés, les jeunes et nous. On vous a dit que vous pouviez entrer, mais sans le bâton. Pourquoi ne pas l'avoir laissé à l'extérieur? Ça aurait été irrespectueux. Plusieurs chefs sont restés avec vous en solidarité. Qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai ressenti une force de leur part, de m'avoir soutenu. Ils sont restés avec moi, et je sais que leurs ancêtres et leur communauté étaient là également. Et les autres chefs ont pu entrer pour faire valoir nos points. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette situation? J'espère que le gouvernement du Québec va changer le règlement. Ce que j'ai vécu, ça montre qu'on ne connaît pas nos traditions, alors que nos peuples ont accueilli toute cette société-là sur nos territoires. Du changement bientôt? La situation a été vivement dénoncée par les communautés autochtones. Cette semaine, l'Assemblée nationale et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, APNQL, se rencontrent pour essayer de trouver une solution. Et toi, qu'aurais-tu fait si tu avais vécu la même chose que le chef Sipi Flamand? Entrevue avec les vedettes du film Lydia et le vaisseau des tempêtes. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 18 février 2026 dans les As de l'Info. Attention! Tempête de vedettes à l'horizon. Un nouveau film d'animation entièrement québécois s'apprête à débarquer sur nos écrans. Lydia et le vaisseau des tempêtes nous transportent dans un monde où les mers sont faites de brume et où les souvenirs sont menacés. J'ai eu la chance de rencontrer les acteurs qui prêtent leur voix aux personnages principaux. Qu'est-ce que ça raconte, Lydia et le vaisseau des tempêtes? Lydia, 11 ans, part sur la mer de brume à la recherche de son frère enlevé par le mystérieux envoûteur. Elle est recueillie par l'équipage du Dauphin, un voilier volant. Elle apprend que d'autres enfants ont aussi été capturés. Lydia devra apprendre l'astromagie et affronter l'envoûteur qui vole les souvenirs des enfants. Sophie, de qui t'es-tu inspirée pour ton personnage? De moi plus jeune. Je travaille comme actrice depuis que j'ai 8 ans. J'ai baigné très tôt dans un monde d'adultes comme Lydia dans le film. Sa relation à l'autorité, son envie de la défier un peu, ça me ressemble. Mais c'est comment donner sa voix à un personnage? J'aime ça. C'est un travail créatif. Quand j'ai enregistré Lydia, il n'y avait pas encore de film, seulement le scénario et quelques dessins des personnages. J'avais vraiment carte blanche pour la créer. Quel souvenir accepterais-tu de donner à l'envoûteur et lequel tu refuserais de laisser aller? Il n'y a rien que je souhaite oublier, mais je me battrai pour conserver tous les souvenirs en lien avec ma famille. Anthony Cavana est le capitaine Cadio. Anthony, ce n'est pas ton premier film d'animation. Non. Mais c'est rare qu'on m'appelle pour jouer un être humain normal. Hein? Pourquoi? Je suis habitué de jouer des demi-dieux. Moï dans Moana, des animaux, le zèbre Marty dans Madagascar ou des génies dans Aladdin. Mais là, un capitaine de bateau dans un projet québécois, j'ai dit oui tout de suite. Justement, qu'est-ce qui est différent avec les projets québécois? Le plus frappant, c'est d'avoir les scénaristes avec nous quand on travaille. On peut tout de suite proposer des idées, discuter. Avec les projets américains, chaque changement prend des jours. Ça doit passer par plein de personnes. Quel souvenir refuserais-tu de donner à l'envoûteur? La naissance de mes enfants. Et mes 30 ans que j'ai fêtés sur scène à l'Olympia de Paris. C'est une salle de spectacle mythique. Il y a 25 ans, j'avais beaucoup de succès ici comme humoriste. J'ai voulu tenter ma chance à Paris. Je me suis donné comme objectif de faire l'Olympia dans l'année qui allait suivre mon arrivée. J'ai réussi. Je l'ai fait en 51 semaines. Linz Dentiste et Luca, le fils du capitaine Cadio. Linz, comment décrirais-tu Lucas? C'est un petit boss d'épécosse, mais il y a un grand cœur. Il devient rapidement l'ami de Lydia et l'aide dans sa quête. C'est sur son côté sensible que j'ai misé en faisant sa voix. Es-tu un habitué du doublage? Oui. Je fais la voix du personnage principal dans le film d'animation Goat, Rêver plus haut, qui est aussi au cinéma en ce moment. J'ai aussi fait le méchant Faka dans Mufasa. Quel souvenir accepterais-tu de donner à l'envoûteur? Les fois où je n'ai pas assez étudié en mathématiques et que c'est revenu me hanter après. Quand je regrettais de ne pas avoir fait mes devoirs. J'aimerais laisser ces souvenirs-là derrière moi. Alexandre Bacon et l'envoûteur. Alexandre, comment on crée un personnage de méchant? Pour moi, c'est important de comprendre et d'aimer les personnages que je joue. L'envoûteur a une histoire triste. Il a pris de mauvaises décisions. Je suis parti de ça, sans jugement. Tu es habitué à faire des voix. Quelle est ta plus connue? Depuis 10 ans, je suis la voix de Spider-Man dans les films de Marvel. C'est vraiment une grande fierté. J'ai vu les anciens films quand j'avais 8 ans. Ça m'a tellement fait rêver. Spider-Man, c'était mon super-héros. Quel souvenir accepterais-tu de donner à l'envoûteur? Je ne veux rien oublier. Les moments douloureux de la vie servent à apprendre. On ne réalise pas tout de suite quand on les vit. En fait, c'est important de ne pas ignorer ses souvenirs et d'en parler quand on en sent le besoin. Il ne faut pas avoir honte des choses qui nous font de la peine. Toi, quel souvenir aimerais-tu oublier? Et lequel tu ne voudrais jamais perdre? Les plages de Nouvelle-Écosse envahies par des élastiques à homard. Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru dans les As de l'Info. Depuis le début de l'année 2026, plus de 82 000 élastiques à homard ont été ramassés sur des plages de la Nouvelle-Écosse. Oui, oui, tu as bien lu. 82 000. Mais d'où viennent-ils? Et pourquoi se retrouvent-ils sur le sable? Pour comprendre, j'ai parlé avec Angela Riley du groupe Scotian Shores qui organise des nettoyages de plages. Voici ce que j'ai appris. Des élastiques à la mer. En Nouvelle-Écosse, la mer grouille de homards et la pêche aux homards est l'une des plus grandes sources d'argent de la province. Des bateaux partent chaque jour pour en pêcher. Les homards sont ensuite envoyés dans des usines où ils sont préparés à être vendus et mangés. Pour éviter qu'ils se blessent ou qu'ils pincent quelqu'un d'autre, les pêcheurs glissent de petits élastiques autour de leurs pinces. Mais une fois rendus à l'usine, ces élastiques sont retirés. Selon Angela, c'est là que le problème commence. Plusieurs personnes croient que les élastiques échoués sur les plages proviennent des bateaux de pêche, explique-t-elle. Mais en réalité, une grande partie vient des usines de transformation. Ces usines retirent les élastiques des pinces des homards. Ensuite, dans certains cas, les déchets sont rejetés dans l'océan. Il n'y a pas toujours de système pour les filtrer. Résultat, les élastiques flottent puis se retrouvent sur les plages. Une autre partie du problème. Plusieurs personnes pensent que ces élastiques sont biodégradables. C'est une vieille croyance, corrige Angela. En réalité, ils peuvent prendre entre 10 et 15 ans à se dégrader dans la nature. Et lorsqu'ils se décomposent, ils ne disparaissent pas vraiment. Ils se brisent en minuscules morceaux de microplastique. Ces petites particules sont toxiques pour les animaux marins et endommagent l'écosystème. On a aussi vu des photos de canards avec des élastiques autour du bec, ajoute Angela. Que faire? Pour l'instant, il existe très peu de règles claires pour empêcher les usines de rejeter ces déchets. C'est pour cette raison que des groupes comme Scotian Shores organisent des corvées pour ramasser et compter les élastiques. En collectant ces informations, ils peuvent montrer l'ampleur du problème et faire pression sur le gouvernement pour qu'il établisse des règles claires. Ces réglementations pourraient, par exemple, obliger les usines et les pêcheurs à ne pas jeter les élastiques dans l'océan, prévoir des inspections régulières ou donner des amendes à ceux qui n'écoutent pas. On se voit comme une communauté de justiciers de l'océan, dit-elle. Nous pouvons avoir un vrai impact. Seul, on n'est qu'une goutte, mais tous ensemble, on forme la mer. Et toi, as-tu déjà ramassé des déchets dans la nature? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de On lit pour toi!